histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.
Chapitre 2, vers la ségrégation raciale.
Troisième partie.
Les esclaves récemment arrivés d'Afrique et restés attachés à leur culture communautaire d'origine formaient généralement le gros de ceux qui tentaient de fonder des communautés de fugitifs dans les régions sauvages de la frontière. Ceux qui étaient nés en Amérique avaient plutôt tendance à tenter leur chance seuls et, profitant des métiers qu'ils avaient pu apprendre sur les plantations, tentaient de se faire passer pour des affranchis. Pour certains propriétaires, l'esclavage était extrêmement rentable. James Madison confiait à l'un de ses hôtes anglais, juste après la Révolution américaine, qu'un esclave lui rapportait 257 $, quand les frais de son entretien ne s'élevaient qu'à 12 ou 13 $. Mais d'autres sons de cloche, à ce propos, se faisaient également entendre. Landon Carter, propriétaire d'esclaves, se plaignait dans ses mémoires que ses esclaves, qu'il n'ait pu ou pas voulu travailler, négligeaient tellement leur travail qu'ils commençaient à se demander s'il valait bien la peine de les conserver. Certains historiens, se fondant sur la rareté des révoltes organisées et sur le fait que l'esclavage s'était maintenu pendant 2 siècles dans le Sud, évoquent une population d'esclaves que ces conditions de vie auraient rendues passives et soumises. La culture africaine des esclaves ayant été éradiquée, ils ne formaient plus, selon Stanley Elkins, qu'une société d'assistés maintenue dans la dépendance. Ou bien encore, comme le prétend l'historien Ulrich Phillips, leur spécificité raciale les inclinait à la soumission. Cependant, si l'on analyse attentivement le comportement des esclaves en général et leur mode de résistance quotidienne qui allait de la non-coopération passive à la fuite, la réalité se révèle bien différente. En 1710, devant l'Assemblée de Virginie, le gouverneur Alexander Spotswood affirmait que la liberté possède un tel pouvoir de séduction qu'elle peut agir sur tous ceux qui se languissent dans les chaînes de l'esclavage et donc entraîner une insurrection qui pourrait avoir des conséquences effroyables. Aussi, j'estime qu'il est grand temps de s'en protéger en nous donnant non seulement les meilleurs moyens de nous défendre, mais également en votant une loi qui interdise tout rassemblement de ces nègres. En outre, étant donné la sévérité avec laquelle les fugitifs étaient punis, le simple fait que tant de Noirs aient tout de même tenté de fuir suffit à prouver l'authenticité de leur sentiment de révolte. Tout au long des années 1700, on pouvait lire la chose suivante dans le Code virginien de l'esclavage. Bien des esclaves s'enfuient et se terrent dans les marais, dans les bois et autres lieux obscurs, tuant des cochons et infligeant bien d'autres déboires aux habitants. Si l'esclave ne revient pas immédiatement, tout un chacun sera autorisé à le tuer et à le faire disparaître par tout moyen qu'il estimera approprié. Si l'esclave est arrêté, la cour du comté pourra légitimement châtier le dit esclave par démembrement ou par tout autre procédé qu'elle jugera approprié à la correction d'un tel esclave afin de passer à ses semblables l'envie de l'imiter. Mullin a également étudié les avis de recherche publiés dans la presse entre 1736 et 1801. 1138 hommes et 141 femmes L'une des principales motivations de ces évasions était de rejoindre des parents, ce qui tend à prouver que, malgré l'objectif évident du système esclavagiste de détruire les liens familiaux en interdisant les mariages et en séparant le plus souvent les membres d'une même famille, les esclaves étaient prêts à affronter la mort et les mutilations pour retrouver leurs proches. Les propriétaires esclavagistes développèrent, afin de préserver leurs réserves de main-d'œuvre et leur mode de vie, un système aussi complexe qu'efficace. Un système à la fois subtil et brutal, appliquant les stratégies dont usent, à tout coup, les classes socialement privilégiées, afin de faire en sorte que le pouvoir et la richesse demeurent aux mains de ceux qui les possèdent déjà. Ainsi que le remarque Kenneth Stamp. Un maître avisé ne pouvait sérieusement croire que les nègres étaient par nature des esclaves. Il savait que les nègres, dès leur arrivée, devaient être couverts de chaînes, que chaque génération d'esclaves devait être soigneusement domptée. Ce n'était pas une tâche facile, car ceux que l'on enchaîne ne se soumettent jamais de bon gré. Plus encore, ils se soumettent rarement complètement. Dans la plupart des cas, la nécessité de veiller au grain était permanente. Du moins, tant que le grand âge n'avait pas réduit l'esclave à la plus complète vulnérabilité. La méthode était en même temps physique et psychologique. On enseignait la discipline aux esclaves. On leur inculquait encore et encore le sentiment de leur propre infériorité. Ils devaient savoir quelle était leur place. On leur apprenait, en détruisant leur personnalité, à considérer la noirceur de leur peau comme le signe même de leur subordination et à craindre le pouvoir du maître. Pour en arriver là, on imposait à l'esclave la discipline d'un travail harassant. La rupture systématique des liens familiaux, l'effet anesthésiant de la religion, qui pouvait parfois néanmoins, de l'avis même d'un propriétaire esclavagiste, causer d'énormes dégâts. La destruction du sentiment communautaire identitaire, en distinguant esclave au champ et esclave domestique, plus privilégié. Et, pour finir, le pouvoir de la loi et celui, plus prosaïque, des surveillants qui menaçaient perpétuellement du fouet, du fer rouge, de la mutilation et bien sûr de la mort. Malgré cela, quelques révoltes eurent quand même lieu. Peu nombreuses, certes, mais suffisamment tout de même pour nourrir une crainte constante parmi les planteurs blancs. En 1739, à Stono, en Caroline du Sud, 20 esclaves se rebellèrent, tuant 2 surveillants d'entrepôt et volèrent des fusils et de la poudre avant de s'enfuir vers le sud, tuant et incendiant tout sur leur passage. Ce groupe fut rejoint par d'autres et finit par compter 80 esclaves qui, selon certains témoignages de l'époque, progressaient au son des tambours en criant « Liberté » et en brandissant des drapeaux. La milice les rattrapa. Près de 50 esclaves et 25 blancs trouvèrent la mort dans la bataille qui mit fin à la rébellion. Herbert Aptheker, qui a étudié en détail la résistance des esclaves en Amérique du Nord pour la rédaction de son livre « American Negro Slave Revolts », dénombre près de 250 révoltes ou conspirations réunissant au moins 10 personnes. De temps à autre, des blancs se trouvaient également impliqués dans ces sursauts de résistance des esclaves. Dès 1663, des serviteurs blancs sous contrat et des esclaves noirs du comté de Gloucester, en Virginie, avaient fomenté un complot afin de se rendre libres. Ils furent trahis, et pour certains exécutés. Mullin rapporte quant à lui que les avis de la presse virginienne concernant les fugitifs avertissaient régulièrement les Blancs, mal avisés, contre les dangers d'accueillir les esclaves en fuite. Parfois, esclaves et hommes libres partaient ensemble ou commettaient ensemble des crimes. D'autres fois, c'était des esclaves de sexe masculin qui s'enfuyaient pour rejoindre des femmes blanches. Enfin, de temps en temps, des Blancs, capitaines de navires ou bateliers, s'entendaient avec des fugitifs et allaient jusqu'à les enrôler dans leurs équipages. Une seule chose, dans les nouvelles colonies américaines, effrayait plus encore que les soulèvements de Noirs. La possibilité que certains Blancs mécontents se joignent alors aux esclaves pour renverser l'ordre établi. En effet, au cours de cette première période de l'esclavage en particulier, on pouvait envisager une coopération avant que le racisme ne s'impose comme une opinion commune et alors que les serviteurs blancs sous contrat étaient souvent traités aussi durement que les esclaves. Selon Edmund Morgan, il apparaît que les deux groupes dominés se considéraient, à l'origine, comme soumis aux mêmes conditions terribles. Les serviteurs et les esclaves s'enfuyaient parfois ensemble, volaient des cochons ensemble ou s'enivraient ensemble. Il leur arrivait également de faire l'amour les uns avec les autres. Lors de la révolte de Bacon, l'un des derniers groupes à se rendre était composé de 80 Noirs et 20 serviteurs anglais. Aussi prit-on des mesures. À peu près à l'époque où l'Assemblée de Virginie promulguait les codes des esclaves avec leur batterie de mesures disciplinaires et punitives, la classe dirigeante virginienne, ayant proclamé que tous les hommes blancs étaient supérieurs aux noirs, finit par offrir aux individus socialement inférieurs, mais blancs cependant, un certain nombre de privilèges qui leur avaient été jusque-là refusés. En 1705, une loi fut votée qui demandait au maître de fournir aux serviteurs blancs dont le contrat prenait fin 10 boisseaux de céréales, 30 shillings et une arme, et aux femmes 15 boisseaux de céréales et 40 shillings. En outre, les domestiques devenus libres se voyaient attribuer 20 hectares de terre. Puis, Morgan conclut en précisant que lorsque le petit planteur se sentit moins opprimé par la fiscalité et qu'il commença à prospérer un peu, il devint également moins incontrôlable, moins dangereux et plus respectable. Il pouvait s'autoriser à considérer son riche voisin comme un puissant protecteur de leurs intérêts communs, plutôt que comme un exploiteur. Nous voyons désormais, en Amérique, un réseau complexe de dispositions historiques prendre les Noirs au piège de l'esclavage. La détresse des colons affamés, la terrible vulnérabilité des Africains déportés, l'avidité irrépressible des négriers et des planteurs, la tentation des Blancs pauvres d'accéder à un statut social supérieur, les mesures de contrôle pour empêcher l'évasion et la rébellion, et, enfin, le châtiment à la fois légal et social de toute collaboration entre Noirs et Blancs. Il faut insister sur le fait que les différents composants de ce réseau sont historiques et non naturels. Cela ne signifie pas que l'on puisse aisément les dénouer ou les déconstruire. Cela signifie seulement qu'il existe une possibilité pour que, dans des conditions historiques qui n'existent pas encore, les choses puissent se passer autrement. Une de ces conditions serait l'élimination de cette exploitation de classe qui a rendu les Blancs pauvres, si désespérément avides de la moindre amélioration de leur statut, et qui a empêché cette coopération entre noir et blanc, absolument nécessaire à un soulèvement commun en vue d'une reconstruction. Aux environs de 1700, la Chambre des bourgeois de Virginie annonçait que les serviteurs de Dieu dans ce pays appartiennent, pour la plupart, à la pire engeance que l'on puisse trouver en Europe. En outre, un si grand nombre d'Irlandais et d'individus originaires d'autres nations sont arrivés ici, parmi lesquels nombre d'anciens soldats ayant pris part aux guerres récentes, que, dans les conditions actuelles, il nous est à peine possible de les gouverner. S'il fallait leur confier des armes et qu'ils aient la possibilité de tenir des assemblées, nous aurions de bonnes raisons de craindre qu'ils se soulèvent contre nous. Il s'agit là de l'expression d'une certaine conscience de classe, ou plus précisément d'une peur de classe. On s'arrangea donc, dans toute la jeune Virginie comme dans les autres colonies, pour calmer cette peur. On estime qu'environ 50 millions d'Africains furent les victimes, mortes ou vivantes, de l'esclavage pendant ces quelques siècles que nous considérons comme les origines de notre civilisation occidentale moderne. Cette civilisation dominée par les planteurs et les négriers de l'ouest de l'Europe et d'Amérique, régions prétendument les plus avancées du globe.
Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Howard Zinn.